Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, on appelle la fête de Pâques la solennité des solennités. C'est en effet le couronnement de toute l'année liturgique, le point culminant. Notre Seigneur Jésus-Christ est né à Noël, à Bethléem, dans une pauvre étable, entouré de Notre-Dame, Saint-Joseph, et c'est tout. Quelque temps plus tard, très rapidement, les bergers vont venir, puis les mages. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ montre bien cette opposition entre ceux qui reçoivent Jésus-Christ, à qui il donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, et au contraire, tous ceux qui le rejettent. Et nous avons vu durant le temps du carême cette montée en puissance de l'opposition, de la haine, jusqu'au meurtre, le déicide, un mot qu'il ne faut plus employer de nos jours, mais qui est, parce que c'est grave de dire cela, et c'est d'autant plus grave qu'il faut bien le dire. Notre Seigneur Jésus-Christ a été mis à mort par la haine des Juifs, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, a dit Caïphe, qui était très grand prêtre cette année-là, au soir du Jeudi Saint. Donc on voit cette montée en puissance de la colère, de la haine contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et qui l'affirme de façon non pas voilée, mais tout à fait claire, ostensible. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort, a été enseveli. Quelques personnes étaient présentes le soir du Vendredi Saint. Notre-Dame, la Vierge fidèle, les saintes femmes, Saint Jean, le seul d'entre les apôtres qui a eu le courage de venir entourer notre Seigneur Jésus-Christ. Quant aux autres apôtres, l'un s'est suicidé de désespoir, l'autre a renié, Pierre. Les autres, où sont-ils? Terrorisés par cette avanie, par cette... Ils ne comprennent pas le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, mis à mort en croix, entre deux larrons. Le soir du Vendredi Saint, mes bien chers frères, l'enfer semblait avoir triomphé de Dieu. Jésus est mort et mis au tombeau. Hier, le samedi saint, est un jour de tristesse immense, indicible, une grande désolation chez tous ceux qui avaient suivi Jésus, qui avaient cru en lui, qui avaient vu ses miracles, qui avaient vu que c'était un homme extraordinaire, le Messie. « À qui irions-nous, Seigneur ?» avait dit Pierre. « Vous avez les paroles de la vie éternelle. » Mais où est Pierre? Il n'est pas au pied de la croix. Il a pleuré, il a renié, il a pleuré son péché, il se terre quelque part. Et au matin de Pâques, Pierre aura du mal à croire en Dieu. Saint Jean va croire dès qu'il voit le tombeau vide et le sphère plié. Donc il y a deux étoffes pliées dans le tombeau, une au pied de Jésus, une à sa tête. Mais Jésus n'est pas là. Et Saint Jean, parmi les apôtres, sera le premier à croire alors qu'il ne voit rien. Et vidit et credidit. Et pourtant, le tombeau est vide. Quant à Pierre, lui, il demeure sceptique. Il ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Évidemment, le tombeau est vide. Une âme dans une grande désolation, qui est plus qu'une perplexité. Il ne comprend pas. Quel mystère que cette disparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, Pierre avait la foi. À qui rions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et la croix a dérouté entièrement les apôtres. Eh bien, chers frères, ne leur jetons pas la pierre. si nous, nous avions été présents au calvaire, et ensuite, au petit matin de Pâques, qu'aurions-nous fait? Je n'ose pas répondre. Aurions-nous été meilleurs que les apôtres? Au mieux, on aurait été comme les saintes femmes. Mais les femmes ne croient pas non plus la résurrection. Elles restent courageuses. Elles ont été dans les magasins acheter des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Donc elles ne croient pas que Jésus est ressuscité. Mais elles vont au tombeau. Et la question qu'elles se posent est la suivante. Qui de nous pourra rouler la pierre? Elle est fort grande. C'est un obstacle. Mais cet obstacle, pour elles, n'est pas un obstacle majeur, à part le poids de la pierre. Mais autrement, elles ont bien du courage, bien plus que les apôtres. Quelles leçons pour ces hommes forts et qui sont faibles devant la croix. Et notez bien que les premières personnes qui verront notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont les saintes femmes. Marie-Madeleine, puis le groupe des saintes femmes. Ensuite, il y aura les disciples d'Emmaüs, c'est l'évangile de lundi de Pâques. Et puis Pierre et les autres apôtres. Et ainsi, les événements vont s'enchaîner, se dérouler très rapidement durant ce premier jour de la résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ, peu à peu, va ranimer le cœur de tous ces fidèles, les femmes, les hommes, et leur montrer qu'il est lui-même le Christ ressuscité. Les apôtres ont encore du mal à voir, à croire. Ils voient, mais ils ne croient pas. Il leur montre ses plaies. C'est dimanche prochain, dimanche de Quasimodo, où nous verrons que notre Seigneur Jésus-Christ doit insister auprès de Thomas pour lui dire, mais touche, tu demandes des preuves, touche mes mains, touche mes pieds, et mon côté également. Et la leçon qu'il donne à Thomas, c'est la foi. Il faut quitter cette incrédulité. La foi. La foi, mes bien chers frères, est une chose absolue. Je crois parce que Dieu a dit. Le mystère demeure, mais je crois. Et je m'incline et je me prosterne parce que je crois que Dieu est vrai, qu'il ne se trompe pas, qu'il ne me trompe pas. Dieu est la vérité. Il l'avait dit, les apôtres avaient entendu ces paroles. Je suis la voie, la vérité et la vie. Je reprends ma vie. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort, mais il ressuscite par sa propre puissance. Et le démon est défait. Et comme je l'ai dit, le démon pensait bien que c'en était fait absolument et pour toujours de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enfer avait vaincu le ciel. Mais ce n'est qu'une apparence. Notre Seigneur Jésus-Christ est le vainqueur de toute mort. La mort physique, sa propre mort physique, et pour nous, la mort morale, celle du péché. Eh bien, chers frères, en ce jour de Pâques, il nous faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une image, mais les images nous parlent. Notre Seigneur Jésus-Christ a été enseveli. Et nous aussi, nous sommes ensevelis dans sa mort. Quand nous nous confessons, c'est là l'image. Et c'est aussi une réalité. Mais c'est pour faire comprendre la réalité qu'il nous faut des images, des comparaisons. Quand nous nous confessons, nous déposons nos œuvres de mort, que sont nos péchés. Et quand nous nous relevons, nous sommes ressuscités à la vie de la grâce. Donc que cette image nous fasse bien saisir la réalité. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. C'est tout le toute la théologie, toute la liturgie du carême qui est là, résumée dans ces quelques mots, bien chers frères. Le carême nous a invités à mourir à nos péchés pour vivre selon Dieu, vivre selon la grâce divine, ressusciter avec le Christ. C'est ce que dit bien saint Paul dans l'épître de Pâques. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Ayons dans nos âmes cette vie divine qui est permanente. Est permanente. Il faut que le Christ règne en nos âmes. Le Christ est roi de nos cœurs, de nos âmes, de nos intelligences, de nos volontés. Il faut qu'il règne en nos âmes. Et ainsi le démon est défait. Il est vaincu. Il est vaincu par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez déjà, bien sûr, depuis longtemps, mais il est bon de le répéter toujours, que Pâques est la grande solennité, le point culminant de la liturgie. Pourquoi tout ce carême ? Pour nous préparer à Pâques, au Vendredi Saint et à Pâques. Notre Seigneur Jésus-Christ est vainqueur de la mort, de sa propre mort et de nos morts spirituelles causées par nos péchés. Cette victoire est éclatante. Autant la défaite était fulgurante, le Vendredi Saint, un grand échec. Et le démon croit triompher. Mais au petit matin de Pâques, la victoire est absolument éclatante. Et ce qui s'est passé le fut dans le silence, comme à Noël. Les grands événements de la vie de Jésus-Christ se passe dans le silence. L'Annonciation, le 25 mars, à Nazareth. Une femme, la Vierge Marie, l'Immaculée, visitée dans sa prière, dans son silence, par l'archange Gabriel. Aucun témoin n'est présent pour ce fait absolument extraordinaire. Le début de la recréation, la venue du Messie, le ciel est suspendu à la réponse de cette humble vierge. Fiat. Et ce conseil d'Annonciation est par Notre-Dame et par personne d'autre, aucun témoin. En général, pour des faits extraordinaires, il y a beaucoup de témoins qu'on interroge et on recoupe les informations pour voir si c'est vrai ou s'il y a des failles. Et on s'en tient là pour le fait de l'incarnation à la parole unique de la Vierge Marie. C'est dire si sa parole est de poids et on croit à ce que la Vierge Marie a raconté aux évangélistes. À Saint-Luc, en l'occurrence, qui nous raconte l'Annonciation. À Bethléem, il y a très peu de témoins. Il y a Saint-Joseph, puis il y aura les bergers, et ensuite les mages, plus tard. Mais ce n'est pas le monde entier. Un fait extraordinaire. Notre Seigneur qui naît pour nous racheter. Nous racheter, c'est Vendredi Saint et Pâques. Et à Pâques, les témoins, où sont-ils ? Ils sont là, mais on va les payer pour dire qu'il n'est pas ressuscité. Ça, c'est fort. Pendant que vous dormiez, diront les princes des prêtres, pendant que vous dormiez, ses disciples sont venus le chercher. Et c'est un mensonge extraordinaire, d'une folie totale. Et pour que ça marche, on paye les gardes. Et le mensonge a duré. Et saint Jean, qui rapporte le fait de ce mensonge, dit qu'effectivement, on croit toujours de son temps que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité. C'est un mythe que Jésus-Christ soit ressuscité. On a payé pour que les gardes se taisent ou racontent n'importe quoi. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité dans le plus grand silence, par sa propre force. Et ensuite, les apôtres ont annoncé sa résurrection à partir de la Pentecôte. Eh bien, chers frères, les grands mystères du bon Dieu se réalisent, on le voit bien, dans le silence. Il en est de même pour nous-mêmes, pour nous. Les grandes choses se font dans le silence, dans le recueillement, dans la prière, dans cet esprit de retraite, c'est-à-dire de se retirer des informations du monde qui sont si mensongères. Le recueillement nous apprend tant de choses. L'Annonciation, Noël, la Nativité et Pâques. Et toutes les grandes grâces que nous recevons se réalisent dans le silence. Sachons faire silence en nos âmes pour écouter notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle au fond du cœur, au fond de nos âmes. Quand notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître de façon successive aux apôtres, les mots qu'il prononce sont des mots de paix, pax vobis. En effet, les apôtres sont vraiment terrorisés. Ils croient voir un fantôme. Notre Seigneur leur demandera de manger quelque chose, non pas qu'il ait besoin de manger, mais pour montrer qu'il n'est pas un fantôme, qu'il est bien lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, avec lequel ils ont vécu pendant 3 ans. Mais les mots primordiaux sont pax vobis, la paix soit avec vous. Notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. C'est ainsi qu'il est nommé par les prophètes pour l'annoncer dans sa venue au monde à Bethléem. À Noël, on voit Princeps Pacis, le prince de la paix. Notre Seigneur Jésus-Christ apporte la paix aux âmes. Et cette paix, encore une fois, se réalise dans le silence de notre cœur, de notre âme. Notre Seigneur Jésus-Christ met la paix dans nos âmes, par sa venue en nous-mêmes. La paix, dit saint Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre. Quand l'ordre est mis dans nos âmes, la paix en découle. Le péché met la guerre. Jésus met la paix. Aimons ce prince de la paix, venu de sa toute-puissance. Notre Seigneur Jésus-Christ veut nous donner, mes bien chers frères, cette paix intérieure, cette paix indicible que seule une âme en état de grâce peut vraiment connaître. Chérissons cet état de grâce, c'est-à-dire la vie de Dieu dans nos âmes. Il est venu pour cela, pour nous mettre dans l'âme sa paix. Donc lui-même, il est la paix, il est la paix. Enfin, demandons à la Vierge Marie qui, bien sûr, est cette femme de silence, d'adoration, de contemplation des mystères divins. Notre-Dame parle peu. Et quand elle parle, c'est pour chanter la grandeur de Dieu et sa petitesse. Il a fait en moi de grandes choses et son nom est saint. Notre-Dame est la Vierge fidèle parmi tous les fidèles. Il est bien évident, nous savons, que la première personne qui ait reçu cette visite de son Fils ressuscité, c'est elle. En pouvait-il être autrement ? Non. Notre-Dame a eu cette visite de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a dit « Résurrexi, je suis ressuscité ». C'est l'introïte de la messe de cette grande solennité de Pâques. « Résurrexi ». Dans un mode très, très intérieur, qui est le mode 4, le quatrième mode grégorien, un mode très, très intérieur, très de contemplation. Notre Seigneur Jésus-Christ dit à sa bien-aimée mère, « Résurrexi et aduxum tecum ». Je suis ressuscité et je suis avec vous. Notre-Dame a toujours été avec notre Seigneur Jésus-Christ, et inversement. En elle, il n'y a aucune ombre, aucune infidélité, aucun doute. Elle croit, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la Vierge fidèle parmi les fidèles. Demandons-lui, bien chers frères, en cette grande fête de Pâques, d'avoir une foi toujours plus vive pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il est, le Christ, le Messie attendu, le Christ vivant, le Christ roi de nos âmes. Et demandons à Notre-Dame de nous aider à plus connaître notre Seigneur Jésus-Christ pour mieux l'aimer. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.